Radio Kapi.
Oh, Kapi. Ma belle Pongo Massimango à la présentation.
Les rideaux sont tombés hier à Inongo sous les travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Les évêques catholiques reconnaissent différents mots qui rongent le pays. Ils appellent les fidèles à tenir bon. Un peu de répit pour le gouverneur du Congo central. Le vote va accorder ou non au procureur général de la Cour de cassation le droit de poursuivre en justice est loin d'être voté. Et pour cause, la majorité des députés a brillé par son absence à la plénière d'hier. Crise entre la RDC et le Rwanda, le président français appelle à la reprise d'un dialogue direct entre Tshisekedi et Kagame. Emmanuel Macron s'oppose aussi aux sanctions américaines contre le Rwanda. Cette prise de position a été au centre du débat dans le dialogue entre Congolais hier. Vous suivrez les avis des intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Les prélats catholiques reconnaissent que la population continue de traverser plusieurs difficultés, notamment la pauvreté, l'insécurité, la précarité des conditions de vie. Ils se sont exprimés au cours de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa qui s'est officiellement clôturée hier mercredi à Inongo, dans la province du Maïndombé, assise conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Toutefois, les évêques ont salué plusieurs réalisations du pouvoir central dans l'espace de la province ecclésiastique de Kinshasa, qui comprend les provinces de Kinshasa, du Congo central, ainsi que celle issue de l'ex-Bandundu. Détail avec Monseigneur Donatien Bafoudinsoni, évêque du diocèse d'Inongo. Ses propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire de Bandundu.
De nos échanges, il ressort que nos populations font face à certains défis majeurs qui interpellent notre conscience de pasteur, notamment la pauvreté, l'insécurité généralisée, les attaques ciblées contre l'Église catholique, ses représentants et ses structures. À cela s'ajoute la montée vertigineuse des violences physiques et verbales, les tracasseries fluviales et routières, avec la multiplication des barrières, certaines taxes inappropriées, l'abandon de la jeunesse à son triste sort, la corruption qui gangrène nos milieux éducatifs et d'autres institutions étatiques, le retard dans le paiement du salaire des fonctionnaires dans les milieux ruraux, l'enclavement de plusieurs contrées de notre province ecclésiastique. Face à toutes ces épreuves actuelles et à venir, nous vous exhortons, frères et sœurs, avec le Christ ressuscité, tenez bon et soyez toujours dans la joie.
Notez que ces assises ont réuni les responsables des diocèses, membres de la province ecclésiastique de Kinshasa depuis le 6 mai dernier dans la ville d'Inongo. Et puis cette inquiétude des députés nationaux, membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC, ces représentants des provinces de l'Équateur, Mongala, Nord et Sud Ubangi ainsi que de la Chapa, se disent préoccupés par la situation sociale, politique et économique de cette vaste région du pays. Dans une déclaration hier mercredi au Palais du Peuple à Kinshasa, à l'issue d'une réunion extraordinaire, ces élus dénoncent les conflits interinstitutionnels dans certaines provinces, ainsi que les tensions autour de la société agro-industrielle, plantation et huilerie du Congo, entreprise qu'ils considèrent comme poumon économique dans les grands équateurs. Par ailleurs, ils évoquent plusieurs actions judiciaires et institutionnelles menées par certaines personnes contre cette société agro-industrielle. Les élus lancent un appel au calme. Ils estiment que ces tensions freinent le développement de la région. Suivez José Ngwanda, président de la REPEC, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Exhortons les leaders du Grand Équateur à œuvrer pour la paix et la cohésion entre institutions provinciales d'une part et entre filles et fils du Grand Équateur d'autre part. Quant aux actions déstabilisatrices des plantations des huileries du Congo, en sigle PHCSA, considérée aujourd'hui comme la première et la plus grande pourvoyeuse de l'emploi dans les Grands Équateurs, avec des succursales à Yali Gimba dans la Mongala et à Boteka dans l'Équateur, attirant solennellement l'attention de la nation sur les conséquences extrêmement graves qu'entraînerait toute tentative de déstabilisation des PHCSA. Sur le plan social, perte massive d'emplois, paupérisation des populations rurales riveraines, aggravation de la misère sociale, destruction du tissu économique local et l'augmentation des tensions sociales. Sur le plan sécuritaire, la montée de l'insécurité, l'expansion des groupes criminels, des mouvements des populations, des tensions communautaires et une profonde déstabilisation des territoires concernés.
Sakania, dans le Haut-Katanga, menacé de coupure d'électricité. Face à cette situation, la société civile de ce territoire plaide pour une intervention urgente de l'État en vue d'assurer la continuité de la desserte en énergie électrique pour les territoires congolais frontaliers à la Zambie qui sont alimentés en énergie électrique par ce pays voisin. Cette situation intervient à la suite d'une correspondance de l'entreprise Zesco United adressée à la SNEL pour qu'elle prenne toutes les dispositions car dans 48 heures, ces trois territoires seront déconnectés. Pour la société civile locale, cette situation sera lourde de conséquences. On écoute Jean Wolondo, président de la société civile du Congo, dans les territoires de Sakania. Il est joint par Jean Gandou.
Nous venons à peine de recevoir une lettre émanant de la Zambie, Zesco Zambie, qui a rédigé une lettre à la SNEL au Katanga, donnant une échéance de 2 jours pour interrompre la fourniture de l'énergie électrique dans les territoires qui sont ses clients. Entre autres, le territoire de Sakania, le territoire de Kasenga et le territoire de Mpweto, y compris la commune de Mokamb. Cette situation nous inquiète beaucoup plus, puisqu'il n'y a pas longtemps, Zesco Zambie a interrompu la fourniture de l'énergie électrique dans les 3 territoires-là cités. Mais avec l'intervention du gouvernement central à travers les députés de ces 3 territoires, on a remis les courants. Il n'y a pas longtemps, c'est peut-être il y a quelques mois passés. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? Lorsque la Zambie va interrompre la fourniture de l'énergie électrique dans les 3 territoires frontaliers avec la Zambie, nous avons une crainte. Il y aura une insécurité qui va galoper.
Autre nouvelle, le vote tant attendu à l'Assemblée provinciale du Congo central n'a finalement pas eu lieu. Il a été suspendu. Ce vote concerne le réquisitoire du procureur pour la Cour de cassation visant le gouverneur Grace Bilolo, accusé de malversation financière. Et d'après le rapporteur adjoint Guilain Panzou, la séance plénière a été suspendue faute de quorum. Sur les 40 députés que compte l'Assemblée provinciale, seuls 19 étaient présents. On écoute Guilain Panzou dans cet extrait choisi par Élise Kavira.
À la séance d'aujourd'hui, nous avons auditionné les membres de la commission spéciale et temporaire qui devaient nous présenter leurs rapports de travail. Tout le monde a entendu ces rapports-là, mais il était question aujourd'hui qu'on puisse voter et les rapports et passer au vote pour l'acceptation ou non du réquisitoire contre le gouverneur des provinces. Mais conformément à l'article 67 de notre règlement intérieur, pour que l'Assemblée provinciale puisse prendre des décisions, il faut réunir le quorum de vote qui est de 2/3. Donc, nous n'avons pas pu atteindre le quorum de vote, raison pour laquelle nous avons de nouveau suspendu la séance et la séance se poursuivra prochainement. Et comme le dit le règlement, si à la prochaine séance, le quorum de vote n'est toujours pas atteint, en ce moment-là, nous allons passer au vote par rapport aux députés qui seront présents.
Autre ambiance plutôt du côté de Kindu. Le bureau d'âge a été installé hier mercredi dans cette ville du Maniema. C'est après le dépôt en cascade de pétitions contre tous les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ce bureau d'âge sera dirigé par le député de Punia, élu de Punia, Kaspar Kalukula Lutaka. Il sera secondé par le député Moïse Moussa Boukassa comme secrétaire rapporteur et Kadhafi Souedi comme questeur. Cette cérémonie a été présidée par le directeur administratif. Nous sommes aussitôt installés, le président du bureau d'âge a dévoilé sa mission. Celle de redorer l'image de cet organe délibérant. Gaspar Kalukula est ici au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de recevoir une lourde responsabilité ici où notre règlement à son article 30 nous donne une prérogative de statuer sur les cas de différends qui opposent les membres de notre bureau de l'Assemblée provinciale. Nous avons reçu 5 pétitions que nous allons pouvoir étudier pendant 10 jours. Nous venons de lancer déjà l'invitation pour une plénière dans 48 heures où on va étudier cas par cas. Au cas où il s'avérera que certains membres de l'Assemblée provincial tombe dans une infraction où ils peuvent être déchus, mais je crois que on aura l'obligation d'organiser encore une séance pour l'élection des nouveaux bureaux. Et au cours de cette élection des nouveaux bureaux, notre bureau d'âge tiendra compte des poids politiques, de l'équilibre géopolitique et le respect strict de l'accord que nous avions signé avec notre hiérarchie au niveau de Kinshasa au début de notre mandat. Voilà pourquoi la matière que nous allons statuer, c'est pour que le calme revienne en province et en toute équité, ça va favoriser la recherche et le bien-être de cette population ici.
Entre-temps, la Cour des comptes ici à Kinshasa alerte sur des cas de détournement présumé des finances publiques au sein des gouvernements centrales et provinciaux, ainsi que dans des entreprises publiques. Le premier président de cette institution judiciaire, Jimmy Munganga, a livré cette information lors d'un briefing de presse organisé hier dans la capitale. Il indique que depuis la rentrée judiciaire de la Cour des comptes en mars dernier, plusieurs irrégularités ont été constatées, c'est notamment des dépenses exécutées sans pièce justificative conforme en violation des règles budgétaires et comptable. Les propos de Jimmy Munganga recueillis par Blaise Ndongala.
Au niveau de chaque ministère ou chaque institution, il y a un compte qu'on appelle un compte dédié à la banque centrale. Toutes les fois que les ordonnateurs engagent le budget liquide, les finances ordonnances, la banque centrale paye à partir de paiements informatisés, le compte général du trésor crédite le compte dédié du ministère concerné ou de l'institution concernée. Et lorsque l'argent arrive dans le compte, ce compte ne peut être mouvementé que par l'ordonnateur et le comptable. Les deux signent et ils mettent là-dedans un code. Alors, ce compte dédié peut être débité ou permettre à l'institution ou au ministère de fonds. Lorsque nous examinons les comptabilités mensuelles, la Cour des comptes constate par exemple, il y a des dépenses sans pièce justificative. Lorsque vous examinez les livres de caisse de comptable, dans ce cas-là, il y a présomption de détournement. Les comptables publics qui sont concernés par ce cas-là vont être poursuivis devant la Cour des comptes. Certains pour des cas graves vont être renvoyés. La deuxième situation, c'est les cas de contournement de compte dédié. Le compte général du trésor crédite le compte dédié.
À la même occasion, le procureur général près la Cour des comptes, Guy Kipata, a annoncé le lancement de plusieurs audits au sein des institutions publiques et promet des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes qui seraient reconnues coupables de ces faits. Le Centre Carter exprime son soutien à l'initiative du président Tshisekedi visant à auditer les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué parvenu hier à Radio Kapi, l'organisation précise que cet audit portera notamment sur le respect des obligations de rapatriement de recettes minières d'exportation, la gouvernance des co-entreprises minières ainsi que les actifs miniers de l'État. Le Centre Carter considère cette initiative comme une opportunité historique pour renforcer la transparence et la redevabilité dans ce secteur stratégique. Que retenir d'autre de ce document, Blaise Ndongala?
Le Centre Carter met en avant plusieurs conditions essentielles pour garantir l'efficacité de cet audit. Il insiste notamment sur la transparence du processus avec la publication des termes de référence, de la méthodologie et des résultats, ainsi que sur l'accès intégral des registres, des contrats et des états financiers des entreprises publiques. L'organisation recommande également que cet audit bénéficie d'une expertise spécialisée, notamment en matière de fiscalité des industries extractives et des prix des transferts, ainsi que de la participation active de la société civile dans les suivis et la formulation des recommandations. Le Centre Carter appelle enfin les autorités congolaises à inscrire cette démarche dans une vision plus globale d'évaluation de la gouvernance des entreprises publiques, du régime fiscal minier et de l'administration fiscale afin de mettre en œuvre des réformes durables au bénéfice des populations, en particulier celles affectées par l'exploitation des ressources naturelles. Cette organisation rappelle qu'elle mène avec ses partenaires de la société civile des études sur la gouvernance minière depuis plus de 15 ans.
Direction Litori, 14 structures sanitaires sur 17 situées dans les aires de santé de Bafoua-Koa et de Badengaïdo en territoire de Mambasa restent fermées depuis le début du mois de mars, conséquence des attaques des rebelles des ADF. La majorité du personnel soignant a également fui ces violences. Autre résultat, de nombreux retournés dans les villages touchés par les attaques n'ont plus accès aux soins de santé. À l'occasion de la journée internationale des infirmiers, ces professionnels de santé ne demandent qu'une chose au gouvernement, restaurer la paix afin d'améliorer leurs conditions de travail. Isaac Raymond.
Seules 3 structures sanitaires publiques restent encore opérationnelles dans les aires de santé de Bafoua-Koa et de Badengaïdo. Les autres centres ont fermé leurs portes, tandis qu'une centaine d'infirmiers, accompagnés de leurs familles, ont trouvé refuge notamment à Nyanya et à Mambasa, où plusieurs vivent aujourd'hui sans activité. Ces infirmiers déplacés disent traverser des conditions de vie difficiles dans leur lieu de refuge. Ils appellent le gouvernement à mettre fin aux violences des ADF afin de leur permettre de regagner leur milieu d'origine et de reprendre leurs activités au service des malades.
Les incursions répétées des ADF dans la zone de santé a mis en débandade les infirmiers. Il n'y a pas d'aide. Vivent difficilement nos autorités de faire tout pour remettre la sécurité dans notre entité afin que tout l'infirmier soit libre d'exercer sa profession sans danger.
Face à l'afflux des déplacés et au manque du personnel soignant dans les zones de refuge, certains infirmiers ont intégré des structures sanitaires des localités où ils sont actuellement installés. Ils encouragent également leurs collègues à suivre cet exemple afin de venir en aide aux milliers de personnes en détresse.
Aux prestataires de ne jamais lâcher les services, même si les moments sont difficiles, continuons à travailler parce que c'est notre vocation.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'ancienne première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, a annoncé mercredi hier donc se pouvoir en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris d'annuler son non-lieu et d'autoriser la reprise des investigations sur son éventuelle implication dans le génocide de 1994. L'avocat d'Agathe Habyarimana, Philippe Wittler, a regretté une décision qui risque d'allonger encore davantage la durée d'une procédure déjà et depuis longtemps déraisonnable, rappelant qu'on est à près de 20 ans d'instruction.
L'invité.
Crise entre la RDC et le Rwanda. Le président français appelle à la reprise d'un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Emmanuel Macron qui s'exprimait mardi 12 mai au cours d'une interview accordée aux médias français à l'issue du sommet France-Afrique organisé à Nairobi s'oppose aussi aux sanctions contre le Rwanda. Les intervenants dans le dialogue entre congolais d'hier ont débattu de cette prise de position. On les écoute au micro de Guy Maté.
Patrick Matata Makalamba, vous êtes professeur et député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Vous êtes également cadre de l'IDPS, parti politique membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous réagissez à cette prise de position du président français qui appelle à la reprise d'un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame?
De prime abord, il convient de souligner que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme de paix. Dès son arrivée au pouvoir, il a voulu jeter le pont entre nos deux pays, le Rwanda et la RDC, des mécanismes de coopération culturelle, socio-économique, politique, diplomatique ont été mis en place. Hélas, quelle n'a pas été la déception des Congolais et de leurs leaders de constater que le Rwanda n'a pas développé d'autres mécanismes de survie que de créer des guerres face à cette situation. Au mois de février 2025, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773. Comme il fallait une puissance diplomatique suffisante, les accords de Washington que M. Macron peine à citer sont venus en fait constituer cette garantie d'exécution de ce qui était déjà fait avant. À ce jour, grâce aux accords de Washington, au leadership du président Trump, on sent que les lignes sont plus ou moins figé en faveur de la RDC. On note ça et là les retraits des troupes rwandaises, les reculs de rebelles du M23. Et si on est arrivé à avoir ces avancées, c'est grâce aux sanctions. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas une antinomie entre, d'une part, le dialogue et les sanctions. Au contraire, les sanctions viennent renforcer l'évolution du dialogue, l'exécution des engagements pris.
Merci. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Comment vous comprenez les propositions du président français sur le règlement de la crise entre la RDC et le Rwanda?
Comme mon co-débatteur l'a dit, le mal causé par le Rwanda à la RDC, le mal causé par l'occupation de nos territoires aux habitants de Bukavu, de Sangé, de Luvungi, aux habitants de Goma, il faut poser la question à toutes ces populations sous occupation pour vous dire jusqu'à quel degré elles sont étouffées, asphyxiées. Ce mal-là nécessitait des sanctions, ces populations-là exigeaient justice. Mais Macron dit, il n'est pas question d'adopter des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Et cela est très compréhensible parce que l'armée rwandaise protège les installations de la société Total au Mozambique. Non seulement Total, mais ExxonMobil également. Mais même les sanctions américaines, ne nous voilons pas la face, nous devons être lucides pour savoir, à raison de ces sanctions-là, qu'est-ce que le Rwanda est prêt à lâcher, qu'est-ce que le Rwanda n'est pas prêt à lâcher. Je salue le fait que, sur appel de Donald Trump, le Rwanda et le M23 se retirent jusqu'à Kamanyola. Mais Kamanyola, c'est une agglomération congolaise. C'est la frontière avec le Rwanda. Et donc le M23 continue à recevoir matériel, tous les renforts à partir du Rwanda. Est-ce que les sanctions américaines obligent le Rwanda et le M23 à se retirer des places politiquement fortes comme Bukavu, comme Goma, comme Bunagana? Rien du tout.
Merci. Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Vous voyez les deux chefs d'État, après cette prise de position de Macron, les deux chefs d'État se retrouvaient dans un cadre autre que celui de Washington?
Déjà, ils ont déjà signé. Je ne sais pas pourquoi ils vont encore se retrouver. On est plutôt à l'étape de la mise en œuvre. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. S'ils mettent de la pression sur les acteurs, c'est pour qu'ils puissent mettre en œuvre. Mais je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux sujets à discuter entre la RDC et le Rwanda. Par contre, c'est la mise en œuvre des engagements que les uns et les autres ont pris. Et si, par exemple, les deux chefs de l'État soit à l'origine des difficultés de mise en œuvre, alors là, peut-être qu'il est important de les engager individuellement. Mais je ne suis pas en train d'entrevoir, dans les moyens termes, une rencontre entre les deux. Et je ne sais même pas si ça aiderait le processus.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Lievin Bouinga, mis en onde par André Mongou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite au programme sur Radio Okapi, la fréquence de la paix.